Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Berry. Donc, comme il l'a évoqué, on a travaillé sur les problématiques du tourisme. Je nous présente Julien Barnu et moi-même Amin Amouche. Donc, je voudrais remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de participer au débat. On voulait quand même vous parler initialement du pourquoi ce sujet, pourquoi on avait voulu traiter ce sujet, sachant qu'au Corps des Mines, on a quand même tout un tas de possibilités, tout un tas de sujets. Parmi eux, il y avait des sujets un peu plus attractifs, comme le business model de la santé, ou peut-être un peu moins les activités régulées. Mais le tourisme, ça, c'était drôle, sympathique, et puis on avait une problématique qui était assez bien posée, et puis intéressante. Pourquoi la France arrive première en termes de destination et seulement troisième en termes de recettes? Dit comme ça, ça semble relativement simple comme question. On pensait que le sujet l'était aussi, et finalement, c'était un peu plus compliqué. Et on a vu ça avec le temps, et finalement, le tourisme est un sujet très compliqué, la problématique est très compliquée, et on va de surprise en surprise en étudiant ce sujet. Notre mémoire, qui s'intitule « Le coûteux mépris français », a pour objectif, comme vous le verrez, non pas de trouver des solutions aux problématiques du tourisme, on ne cherche pas à proposer des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui, mais bien de poser le contexte, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui en France, le tourisme n'avance pas. Alors effectivement, on a 82 millions de touristes qui sont venus cette année, c'est en soi un record, mais c'est un record qui n'en est pas vraiment un. Et on va en comprendre certains points tout à l'heure. Vous comprendrez, je pense, mieux ce qu'il en est après l'exposé, en tout cas je l'espère. Et peut-être aussi avec des interventions qui vont être faites par nos invités. On a essayé de comparer à ce qu'il y avait en France. En France, on a plusieurs secteurs d'activité. On parle essentiellement d'automobile, d'aéronautique, de nucléaire, d'énergie, etc. Des secteurs économiques. Le tourisme en est un, en soi, puisque bon, il contribue à l'économie française et considérablement. Quand on regarde ce qu'on entend le plus souvent dans les médias, à savoir l'automobile, en termes de production, c'est quand même assez gigantesque, on a 69 milliards d'euros en termes de production. 11 milliards de valeur ajoutée. Bon, le solde extérieur, par contre, lui est négatif, en partie lié au contexte dans lequel nous évoluons. L'agriculture. On a un ministère qui est dédié à l'agriculture. C'est 80 milliards en production, 26 milliards en valeur ajoutée. Et là, le solde extérieur est un peu meilleur, on est à plus 4 milliards. Et là, on regarde le tourisme, la chose qui n'est pas vue comme un secteur économique, et on se rend compte que finalement, ben, on est supérieur à ces deux secteurs d'activité, que ce soit l'automobile ou l'agroalimentaire. Le solde extérieur est de 8 milliards et la valeur ajoutée de 42 milliards. C'est quand même assez énorme. Même s'il y a l'aspect frivole du tourisme, où les paires de lunettes, où les gens viennent avec leur chemise hawaïenne, marcher sur les plages et acheter des glaces, enfin, je ne sais quoi, le touriste de base, le touriste est le plus gros poste économique en France. Mais un problème sur le tourisme, c'est que malgré les répercussions qu'il peut avoir d'un point de vue économique, il est mal considéré par les décideurs. Il est mal considéré à tel point qu'en 2012, ou même en 2007, ou même encore avant, dans les débats politiques, personne ne parle de tourisme. C'est le plus gros poste économique qu'il y a en France. C'est un débat qui est complètement absent. Personne n'évoque le sujet, nulle part. Donc autant dans les présidentielles, on pourrait le comprendre d'une certaine façon dans la mesure où ce n'est pas impliqué dans la tête des gens, que de parler de tourisme, ce n'est pas une culture, mais dans toutes les grosses villes, toutes les métropoles, toutes les régions qui font du tourisme, quel que soit le type de tourisme, on devrait évoquer le sujet. Mais malheureusement, voilà, personne n'en parle. On posera la question tout à l'heure à nos interlocuteurs. Et il est pointé du doigt comme signe de dégradation économique. Alors, ça, c'est aussi vrai dans la mesure où, en France, on préfère construire des tracteurs plutôt que d'ouvrir des petits restaurants, des petites brasseries, des petites crêperies dans tous les coins de rue, etc. On préfère faire du lourd, du gros tracteur, du gros moteur, parce que c'est le symbolisme français. Et enfin, il y a un manque de considération stratégique. On propose des business stratégies pour l'automobile ou l'aéronautique ou bien l'énergie avec les énergies renouvelables. En termes de tourisme, on n'a pas l'impression qu'on peut construire de stratégie. En fait, si. On peut éventuellement, on peut bien sûr construire une stratégie sur le tourisme. Alors, des stratégies, elles se déclinent sur les différentes thématiques de tourisme qu'on peut trouver. Il y a du tourisme médical, il y a du tourisme d'affaires, du tourisme culturel. Il y a tout un tas de branches touristiques qui disposent de stratégies, enfin, sur lesquelles on peut faire une stratégie. Mais de dire que ce n'est pas un secteur stratégique en soi, c'est totalement faux, dans la mesure où il est en augmentation permanente. Et tout ça, c'est prouvé. C'est-à-dire que les gens qui parlent de tourisme n'ont pas attendu que deux ingénieurs des mines viennent poser la question pour parler de tourisme, pour tirer la sonnette d'alarme au sein de l'État. Ils ont écrit tout un tas de rapports qui exposent ces problématiques, qui montrent que le tourisme est important, qui montrent que le tourisme doit être étudié au sein de la classe politique. On a d'ailleurs le rapport du CNT, qui a été dirigé par M. Ballandreau, le poids économique et social du tourisme. On a un livre de Xavier Louis, qui est l'ancien directeur du Tour de France. Cette personne a écrit ce bouquin avec l'aide de parlementaires, dans l'objectif de faire élever le débat, des débats présidentiels 2012. Il a envoyé cet ouvrage à François Hollande et Nicolas Sarkozy pour qu'ils en parlent. le sujet a été enterré. D'autres rapports sur la DG6, qui évoquent aussi des problématiques sur des rapports de parlementaires ici, et un rapport intéressant sur l'étude du tourisme et commerce, de façon générale. Là, on entend parler dans la presse très récemment des fermetures le dimanche ou des fermetures le soir, en expliquant qu'en France, voilà, on ne pouvait pas se permettre de travailler un dimanche et certainement pas après 21h. Donc on met certaines contraintes. Et en Angleterre, je crois savoir qu'ils mettent en avant cet aspect-là, cet aspect français, et qui au contraire, eux, cherchent à ouvrir, à montrer qu'ouvrir le dimanche, c'est important, notamment pour les tourismes. D'ailleurs, ils ont une expression.
Oui, pour compléter ça, la New West End Company, donc l'association des commerces, ceux qui développent le tourisme à Londres, en particulier ceux qui mettent les stewards de rue, ont pris, sans vraiment cacher la démarche qu'ils font entre eux-mêmes et Paris, comme slogan « Sunday is just another shopping day », donc le dimanche est un jour de shopping comme les autres. Et ça, c'est parce qu'ils sont conscients d'un phénomène que je pense que les professionnels du tourisme redoutent en France également, qui est qu'aujourd'hui, quand on demande à une agence en Europe ou ailleurs dans le monde « j'aimerais bien passer un week-end shopping », les agences répondent « allez plutôt à Londres parce qu'à Paris, ce sera fermé la moitié du temps ».
Voilà pour ce rapport. Mais il y en a plein d'autres en fait. Là, c'est vraiment les rapports qui ont marqué les esprits pour certains avec des éléments chocs. Les rapports s'accumulent. Il y en a tout un tas qui parlent de tourisme. Malheureusement, ça s'arrête. Ça s'arrête à un certain niveau, au niveau des décisions, visiblement, puisque après coup, il n'y a aucune stratégie qui est proposée dans le tourisme. Le but, c'est de ne pas en parler, de parler plutôt de sujets que la France estime plus importants. Alors, tout ça pourquoi ? C'est la grosse question de ce mémoire, enfin de ce travail. C'est pourquoi on s'arrête là ? Qu'est-ce qui bloque au niveau de la classe politique française ou en France en général ? Cette question est le cœur de notre mémoire. Je vais laisser le soin à Julien d'y répondre.
Alors, effectivement, je pense qu'Amine a très bien montré qu'il y a un décalage énorme entre la réalité économique du tourisme et la façon dont il est perçu par l'opinion publique et la façon dont on entend parler dans les médias et dans les débats politiques. Alors, la première question qu'on s'est posée, et on a trouvé cette réponse dans quelques rapports, est-ce que c'est parce que les décideurs politiques, finalement, ne sont pas conscients de cette importance économique ? On est allé les rencontrer, on est allé dans les cabinets, on a rencontré M. Cage de la mairie de Paris. On est allé un peu partout et en fait on s'est aperçu très rapidement que non, cette thèse n'était absolument pas fondée. Tous les décideurs politiques ne peuvent que voir ce poids économique. Alors on leur a posé la question du coup. Peut-être que ce qui explique ça, c'est que des pistes d'action concrètes pour développer le tourisme, des pistes d'action concrètes pour faire un petit plus qui rapportera plus de recettes, ne sont pas connues. La réponse est également non. On a rencontré des auteurs de rapports, les personnes qui les ont commandés en grand nombre. Toutes les recettes sont connues et certaines sont applicables très facilement et très rapidement. Mais je pense que M. Cage, M. Duperras et M. Ballandreau pourront vous en parler parce qu'ils font notamment partie des personnes qui les proposent régulièrement. Donc, on est allé retourner voir ces décideurs politiques en leur disant « puisque vous connaissez les pistes, puisque vous connaissez l'enjeu, pourquoi, par exemple, ne pas faire ça ?» Et les réponses, c'est finalement un certain malaise en disant non, sans plus de justification la plupart du temps. À partir de là, on a essayé de comprendre pourquoi ce non, qu'est-ce qui se cachait derrière. Et la réponse va être divisée en trois blocages, qu'on peut appeler blocages à juste titre, de blocages plus psychologiques que financiers, des blocages culturels qui font partie de notre histoire, de notre culture, et qui d'après nous expliquent pourquoi en France le tourisme n'est jamais vu comme une priorité nationale, stratégique et mise en avant. Et on va voir aussi comment changer ça, comment débloquer ça, et quelles réponses on peut apporter pour sortir de cette situation. Je vais commencer par vous expliquer ces blocages et l'interprétation qu'on en a faite, en s'appuyant en particulier sur des exemples historiques. Alors le premier, c'est ce qu'on a appelé le mythe du laquais. Alors si vous cherchez mythe du laquais sur Google, vous n'allez pas tomber sur grand-chose, enfin, à part peut-être sur cette présentation. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors d'habitude, j'aime bien présenter le concept d'abord et donner un exemple après, mais là je vais faire une expérience et je vais d'abord présenter l'exemple et je donnerai le cadre théorique ensuite. Je vais vous raconter rapidement plutôt l'analyse qu'a fait un philosophe du nom d'Alain Laurent, a écrit une analyse d'une entreprise donc touristique française à succès, qui est le Club Méditerranée. Alors qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur Alain Laurent ? Il vous dit, allez au Club Méditerranée, je sais pas, je pense que vous y êtes peut-être déjà allé. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe autour de vous, finalement ? Est-ce que vous voyez des gens qui vous font des courbettes, qui courent partout pour tout installer ? La réponse, c'est non, vous voyez pas ça. Vous ne voyez en fait rien, à part des organisateurs souriants. Et quand on remonte un peu à l'histoire du Club Med, il faut voir que le Club Med, au départ, dès sa naissance, c'était quelque chose qui a été mis en place pour développer en particulier le sport auprès de classes sociales pas forcément habituées à jouer au tennis. Tous ces sports qui étaient avant réservés à l'élite se sont démocratisés grâce au Club Med, et c'était ça la raison d'être du Club Med. Et ce qu'analyse Alain Laurent, c'est que petit à petit, il y a une coupure entre les personnes qui venaient au Club Med à la mesure de ce que celui-ci grossissait, qui au départ étaient de la même classe sociale que les organisateurs, et qui progressivement sont devenus de plus en plus riches, d'une classe sociale de plus en plus différente. Et là, ce que note Alain Laurent et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a eu une gêne, il y a eu une sensation de malaise au Club Méditerranée, une sensation d'inconfort entre une classe sociale inférieure qui servait, entre guillemets, une classe sociale supérieure. Et comment réagit le Club Méditerranée en conscience de cause, d'après lui? Il a décidé de cacher ce côté service, de cacher ce côté travail, de le mettre de côté pour donner l'impression qu'au Club Med, finalement, personne ne sert vraiment, personne ne travaille. Et si vous jetez un œil au règlement intérieur du Club Méditerranée, vous verrez qu'il est expressément interdit à tout employé du Club Med de courir, de ne pas montrer qu'il travaille. Il est interdit au Club Méditerranée de montrer qu'on met les décors. Tout cela doit être caché. Alors je me rapproche petit à petit du cadre théorique, et avant d'arriver vraiment dans ce cadre théorique, j'aimerais mettre en relation ce tourisme caché à l'expression de l'adjoint au maire de Paris, qui a expliqué un jour qu'en France, nous avons le tourisme honteux, qui a d'ailleurs repris, je ne sais pas si c'est consciemment ou pas, cette expression à l'écrivain Philippe Duhamel, qui dit la même chose dans un livre qui s'appelle « Ville et mémoire du voyage ». Alors quel cadre théorique on peut donner à ce tourisme honteux qu'on semble avoir en France ? Alors ce cadre nous a été donné par Philippe Diribarne, qui est aussi un ancien camarade du Corps des Mines, qui a écrit un livre qui s'appelle « La logique de l'honneur », dans lequel sa thèse principale est qu'en France, nous sommes régis par cette logique particulière et que, de manière générale, on ne peut pas gouverner un pays, on ne peut pas appliquer dans un pays des règles semblables à celles qu'on applique ailleurs. Autrement dit, on ne peut pas gérer en France une usine comme on gère une usine aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que quelle est la différence entre les États-Unis et la France ? C'est que les États-Unis sont régis par ce qu'on appelle une logique du contrat. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour un Américain, être digne, faire une tâche noble, c'est respecter le contrat qu'il a signé. Le contrat est dans la mentalité américaine le garant de la dignité, le garant de son droit, le garant du fait qu'on fait une tâche noble car exécutée librement. Le contrat est ce qui nous protège. Alors pourquoi est-ce que je prends l'exemple des États-Unis ? Parce que tout ce qu'a dit Amine dans la première partie sur la France, à propos de cette absence totale du débat politique en France, eh bien aux États-Unis, c'est tout le contraire. Peut-être que vous avez entendu en 2012 un grand discours du président Obama à Disney World sur le tourisme. Pour citer le président Obama, un long discours qui termine par « Tourism is the number one service that we export, number one, and that means jobs ». Autrement dit, le tourisme, c'est la première industrie américaine et Barack Obama n'hésite pas à le clamer haut et fort. Alors dans la mentalité française, c'est un peu autre chose. Ce que nous explique Philippe Diribarne, c'est que dans le cadre de cette logique de l'honneur, les tâches de service, et en particulier celles du service à l'étranger, aux touristes, sont vécues comme viles, sont vécues comme serviles et indignes. Pas forcément par les professionnels du tourisme, pas par ceux qui les vivent, mais par le reste de la population française, qui a l'idée d'un peuple dédié au service des touristes, associe l'idée d'un peuple servile. Et cette vision est refusée, refusée en France. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui François Hollande arrivait aux 20h en disant bah, « À partir d'aujourd'hui, les Français seront les meilleurs serviteurs des touristes et nous ferons plein d'argent grâce à ça », ce serait terrible. Parce que non seulement ce que nous décrit Philippe Diribarne, c'est que dans la logique de l'honneur, c'est le caractère même d'une tâche. Voilà, aux États-Unis, une tâche n'est pas considérée comme servile si elle est exécutée dans le cadre d'un contrat justement rémunéré. En France, une tâche essentiellement servile est jugée d'autant plus dégradante qu'elle est réalisée non pas pour rendre service, mais qu'elle est réalisée pour en tirer un profit. Voilà. Donc je vous conseille de lire La logique de l'honneur si vous voulez en savoir un peu plus. Pour ce qui concerne le tourisme, je vais passer aux autres blocages qu'on a pu déceler, qui sont intrinsèquement liés à cette logique de l'honneur. Je me suis un peu attardé dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, si vous réfléchissez bien, est très présent dans nos mentalités et qui est difficile de mettre de côté. Le second blocage, c'est l'idée qu'en France, le tourisme, c'est frivole. Pour donner l'exemple, mon exemple personnel, celui du Corps des Mines, lorsqu'on nous a donné les sujets, comme le disait Amine, hein, aux 20 élèves du Corps des Mines, il y avait donc effectivement le trading haute fréquence, la régulation, bon, il y avait pas mal de sujets, et il y avait le tourisme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai reçu, j'étais en copie de plein de mails de camarades qui se plaignaient. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Non, mais ils se moquent de nous. On n'en veut pas. Arrêtez, c'est pas sérieux. La direction du corps a même dû écrire une note supplémentaire pour convaincre les élèves de s'intéresser à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour reprendre les propos d'un ancien ministre du Tourisme, Jean-Jacques Descamps, personne n'a jamais réussi à faire comprendre aux Français l'importance économique du tourisme. Autrement dit, si vous demandez à Madame Michu dans la rue le tourisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous, elle va peut-être vous répondre « il m'ennuie, il piétine mes fleurs » ou en tout cas, elle ne va pas vous répondre « heureusement qu'ils sont là, sinon on dépérirait. Heureusement qu'ils sont là, sinon nos commerces fermeraient. Heureusement qu'ils sont là, sinon la RATP n'aurait pas le moyen d'entretenir ses rames. » Pour faire un petit retour historique, alors je vais essayer d'être pas trop long sur ce point-là, mais pour reprendre la comparaison avec les États-Unis, c'est assez intéressant de regarder la naissance des métiers du tourisme. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Le tourisme, donc dans le cadre de cette recherche de profit, recherche de contrat qui est très, très prégnante dans la mentalité américaine, le tourisme est né de la recherche de profit d'un entrepreneur qui est arrivé le premier dans le parc Yellowstone et qui s'est dit, donc c'était au 19e siècle, qui s'est dit, ce parc, ça va être ma richesse, qui a fondé un hôtel, qui a organisé des visites touristiques, qui a embauché des guides, qui a fait fortune comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite, l'État américain s'est rendu compte que cette nouvelle activité qui s'offrait là, donc monnayer finalement le patrimoine des États-Unis, les parcs nationaux, enfin qui n'étaient pas nationaux à l'époque, qui étaient juste des parcs, justement, c'était une source de profit énorme. Et qu'a fait l'État américain, l'État californien? Il s'est dit, pas question de laisser
c'était
ça...
C'était Yosemite plutôt que Yellowstone.
C'est le parc Yosemite, oui, c'est ça. Merci. Le parc Yosemite, découvert par James Madison Hutchings. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'État californien s'est dit, hors de question de laisser ça à des entrepreneurs privés, à partir de ce moment-là, on nationalise. Et James Madison Hutchings, qui s'est vu piquer son business très lucratif, et donc... absolument pas vil ou servile ou quoi que ce soit, non. Et aller à la Cour suprême pour essayer de défendre son droit à exploiter de manière privée le parc. Évidemment, il a perdu et cette décision a fait jurisprudence et a donné naissance aux parcs nationaux américains. Alors en France, c'est pas tout à fait pareil. Ce que nous dit un historien du nom de Bertrand Laric dans son livre sur la naissance du tourisme en France, en particulier dans les stations balnéaires, donc au début du XXe siècle, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, de riches bourgeois parisiens ont décidé d'aller se promener sur la plage et finalement se sont rendus compte que c'était assez agréable et que venir ici régulièrement, ce serait pas trop mal. Et ont commencé à dépenser là-bas. Puis il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Personne ne voulait vraiment faire ces métiers-là. Ce qui s'est passé, c'est que la plage à l'époque, c'était surtout l'industrie de la pêche. Et c'est les femmes de pêcheurs, en fait, qui ont petit à petit pris soin de nourrir, de vendre des petits souvenirs aux touristes. Et c'est ça les premiers métiers du tourisme en France. Alors, comme le raconte cet historien, ces métiers étaient moqués, n'ont jamais été étudiés, très dévalorisés, comparés en particularité au métier de la pêche, qui était beaucoup plus noble. On retrouve la logique de l'honneur ici. D'ailleurs, ça vous fera peut-être rire, mais l'origine de la bande dessinée Bécassine, c'est ça qu'elle représente au départ, dans les premières éditions de la bande dessinée. C'est ce personnage de la femme qui s'occupe des touristes dans les stations balnéaires. Continuons avec mon troisième blocage. Donc, vous l'avez peut-être deviné quand je parlais de Madame Michu tout à l'heure. Le touriste est nuisible. Qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, les Français n'aiment pas les touristes. Je n'ai pas 200 témoignages de Madame Michu dans ma poche qui disent qu'elle en a marre de les voir, qu'ils sont envahissants, qu'en été, ils sont moches. Enfin, voilà. Mais je pense que si vous demandez autour de vous, les gens ne vous diront pas vivement la saison où les touristes arrivent, quel bonheur, ces échanges culturels. Et en général, ce n'est pas ce qu'on retrouve. En revanche, ce que j'ai... C'est l'analyse qu'a fait un sociologue du nom de Jean-Didier Urbain, spécialiste du tourisme, qui analyse dans son livre ce fameux comportement. Et alors qui explique qu'en France, depuis Flaubert, non seulement le mot touriste a une connotation négative, déjà Flaubert dans ses lettres se plaignait de faire qu'un voyage de touriste la fois où il n'a pas pu partir assez longtemps, mais surtout les touristes sont vus en France comme des faux voyageurs, nuisibles, envahissants, qui finalement ne sont même pas vus comme des voyageurs, n'ont vraiment même pas grand-chose à voir avec le voyage. Et si vous réfléchissez un petit peu, d'une certaine manière, le touriste, c'est le voyageur quand il n'est pas vous. Le touriste, c'est toujours l'autre. C'est finalement assez étrange, parce que personne ne se considère comme touriste, mais en fait, nous sommes tous des voyageurs, nous sommes tous des touristes, sauf que quand nous rentrons chez nous, on est exaspéré de voir les touristes arriver. Pour faire la connexion entre ces trois blocages, qui, comme on va le voir après, fonctionnent ensemble, ce blocage du mépris des touristes résonne avec le fait que le tourisme n'a jamais été vu comme une activité économique en soi. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que, comme le montre l'exemple de la Corse, résoudre un blocage ne suffit pas, résoudre deux blocages ne suffit pas. Ce qu'il va falloir pour développer le tourisme en France, c'est changer l'ensemble de ces blocages et y remédier. Alors cette analyse de la d'accord, je ne la fais pas tout seul, évidemment. Je m'appuie sur un rapport commandé par la direction du tourisme en 2007, qui s'appelle L'art d'accueillir, et qui explique que le cas particulier de la Corse est très intéressant, parce que c'est une île qui dépend très fortement du tourisme en tant qu'activité économique, mais qui est extrêmement victime de ce qu'on a appelé le mythe du laquais, et aussi de la haine du tourisme. Et en fait, non seulement le fait que les Corses soient sensibles à l'importance économique du tourisme n'a pas suffi à valoriser leur accueil et en faire un élément de développement économique agréable. Et au contraire, ce qui s'est passé en Corse, c'est que le touriste a été accusé, donc je cite ce rapport, de casser l'hospitalité corse, voilà, de l'avoir remplacé par un rapport marchand, et donc avoir encore une fois un effet nuisible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Pour le comprendre, j'aimerais faire un dernier retour pour essayer d'apporter un élément d'analyse à comment ces blocages se sont petit à petit mis en place. Et une fois qu'on aura compris ça, on pourra essayer d'y remédier. Alors l'analyse qu'on en a fait, c'est qu'il s'est en fait agi d'un cercle vicieux. Alors pourquoi ? Au départ, en France, l'activité touristique donc était vue comme frivole, peu sérieuse, si ces métiers n'étaient pas étudiés, et de manière générale, on sous-estimait l'importance économique de ce domaine. Ce qui aurait pu se passer, c'est que les décideurs politiques de l'époque auraient pu essayer de montrer à la population son importance économique. Et c'est ce qui s'est passé très localement, dans certains cas très particuliers, comme on va le voir plus tard. Mais à l'échelle nationale, ça ne s'est pas produit. En une phrase, tout simplement, moins les décideurs politiques ont parlé du tourisme, plus la population est devenue imperméable au tourisme, plus il a été difficile d'en parler. Et aujourd'hui, l'écart s'est complètement creusé. On a une population qui n'est pas du tout sensible au poids économique du tourisme. Le poids économique du tourisme qui est devenu énorme. Et des éditeurs politiques qui ne peuvent plus en parler parce que c'est devenu une préoccupation complètement éloignée de celle des Français. Donc l'idée, c'est qu'il faut changer ça. Il faut remédier à ces blocages et créer en France une conscience touristique. Et ce que je souhaite vous montrer, c'est que ce n'est pas seulement une idée en l'air sortie de notre esprit. C'est une idée qui a été comprise par plusieurs gouvernements à plusieurs époques et qui a été mise en œuvre, et ça a fonctionné. Premier exemple que je souhaiterais prendre, c'est l'exemple de la Jordanie. Mais ça vous paraît peut-être exotique, mais finalement, c'est un pays qui est très proche de nous dans sa vision du tourisme. Un rapport sur le tourisme en Jordanie par l'Agence américaine de développement nous indique que le tourisme jordanien est caractérisé par trois aspects. Le premier, c'est sa richesse, la richesse de son patrimoine, la beauté de son patrimoine, etc. Le deuxième, c'est que les Jordaniens considèrent le fait de travailler dans le tourisme comme dégradant, et que ça nuit au tourisme. Et le troisième, c'est que les Jordaniens sont complètement inconscients de l'importance économique que peut avoir le tourisme. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qui est écrit dans ce rapport. Et qu'a fait le gouvernement jordanien ? Bien, il a mis en place une campagne, non pas à destination, comme on le fait souvent en France, des étrangers, pour leur montrer la beauté de la Jordanie, non. Une campagne à destination des Jordaniens, et seulement des Jordaniens, pour leur faire prendre conscience de l'importance du tourisme. Alors cette campagne s'intitule « Tourism Enriches », donc ça c'est le logo. En fait, la campagne s'intitule « Tourism Enriches Our Lives ». Ce qui est assez drôle avec ce slogan, et je m'arrêterai là-dessus pour l'exemple de la Jordanie, c'est que « Tourism enriches our lives », ça répond exactement aux trois blocages qu'on a identifiés en France. Pourquoi ? Bon, « Enriches », ça répond facilement au blocage non-connaissance des enjeux économiques. Mais « Enriches our lives », pourquoi rajouter « our lives » ? Parce que ça répond à la fois au mythe du laquais et à la haine du tourisme. Si le tourisme enrichit nos vies, c'est que ce n'est plus une dégradation servile de travailler dans le tourisme. Ce n'est plus des envahisseurs qui viennent nuire à notre culture. Le tourisme est à la fois bénéfique pour notre économie et pour notre bien-être national. Passons ensuite à l'exemple de l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est un pays qui, dans la plupart des rapports en France sur le tourisme, est montré comme, waouh, les meilleurs. Tous les rapports nous disent qu'ils ont le tourisme dans le sang, que c'est incroyable, qu'ils font tout ce qu'il faut. Nos professionnels du tourisme, le secteur privé, est totalement désorganisé. Eux, ils ont un lobby très puissant, ils ont un budget colossal. Les Espagnols sont hyper doués pour tout ce qui est de l'accueil. Il faut vraiment voir que c'est un pays qui est donné comme les meilleurs. D'ailleurs, c'est les meilleurs en termes de recettes. Mais si on remonte un peu à leur histoire, encore une fois, on s'aperçoit qu'il n'a pas toujours été comme ça. Et qu'en fait, cette conscience touristique espagnole, qu'on leur reconnaît, a été créée de toutes pièces, a été forgée par de véritables lavages de cerveau par Franco. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, donc, les Espagnols n'en avaient absolument rien à faire du tourisme, ce n'était pas du tout dans leur culture, mais que s'est dit Franco ? Il s'est dit pourquoi ? Pourquoi développer le tourisme ? Pour une raison très simple, pour pouvoir dire, d'ailleurs il l'a dit, voilà, je peux même le citer, « Regardez tous les étrangers qui viennent visiter notre pays, cela prouve à quel point il fait bon de vivre en Espagne, à quel point son régime est justifié par la venue des touristes. » Donc, il a décidé de développer le tourisme. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Il a créé un ministère. Alors, le nombre du ministère va peut-être vous faire voir à quel point il a vu ce lien entre la nécessité de convaincre sa propre population et le besoin de développer son tourisme, le nom du ministère, c'était le ministère de l'Information et du Tourisme, qui était un des plus gros ministères de l'époque franquiste. Et à partir de là, il a mis en place des campagnes de civilisation incroyables pour répondre à tous les blocages que j'ai décrits, qui étaient les mêmes en Espagne, sur tous les modes. C'est-à-dire que dans toute la presse, qui était complètement contrôlée par le régime évidemment, le tourisme était mêlé à chaque nouvelle économique, que ce soit plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. Dans toute nouvelle économique, on entendait parler du tourisme. Sur le point de vue du culturel, tous les films parlaient du tourisme. L'expression en vogue à l'époque était « on attend les Suédoises ». Qui avait été évidemment lancé par le gouvernement. Mais voilà, pour changer l'image du tourisme, le gouvernement a forgé cette image que les touristes, c'est des jolies Suédoises qui viennent en Espagne pour rencontrer des beaux Espagnols. C'était vraiment ça. Bon, je vous invite à lire ce qu'on publiera à la suite de la conférence pour en savoir plus là-dessus. Mais voilà, c'est assez impressionnant à quel point c'est par là qu'est passée la naissance du tourisme en Espagne. Je laisse maintenant la parole à Amine, qui ne va plus avoir beaucoup de temps pour vous présenter un autre exemple.
Le dernier exemple... C'est tout ce petit bonhomme, c'est la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud, c'est un pays un peu particulier, avec une histoire assez intéressante, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Juste vous dire que la Corée du Sud, il y a 30 ans, c'était un pays qui avait un PIB par habitant qui était proche de celui du Niger, et qu'aujourd'hui, il y a un PIB par habitant qui est proche de celui de la France. Sachant qu'ils n'ont rien de base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de ce qu'on avait en France. Néanmoins, aujourd'hui, ils ont les géants, Panasonic, Samsung, sont coréens. Je m'égare un peu du sujet, mais pour revenir au tourisme, la Corée du Sud a mis ce petit bonhomme, donc Gangnam Style, qui a fait le plus d'audience, 1,5 milliard, c'est ça, sur YouTube. C'est le record du monde des vidéos vues sur YouTube. Cette personne-là est devenue officieusement l'ambassadeur du tourisme en Corée. En gros, les messages qu'il fait passer dans ses chansons, qui n'ont strictement aucun sens, c'est « venez chez nous ». Et puis c'est des clips tellement drôles à regarder qu'on a envie d'aller en Corée. Ça paraît sympathique, la Corée du Sud. Cette personne-là est devenue un ambassadeur. Donc c'est volontaire, hein, c'est une pure stratégie du pays. Mais quand on repart dans le passé, on se rend compte que la Corée du Sud avait quand même des similitudes avec la France en termes de blocage. Même si c'était des blocages différents, elle avait quand même des blocages qu'elle a pu identifier et auxquels elle a su remédier. Les blocages qu'elle avait, c'était notamment sur sa peur de l'étranger. C'est-à-dire que la Corée du Sud, enfin la Corée en général, de toute façon à l'époque, était un pays qui était en permanence envahi. Entre le Japon d'un côté et la Chine de l'autre, c'était permanent. In fine, ils se sont renfermés sur eux-mêmes. La culture du « on va vivre tout seul », un peu à la façon nord-coréenne aujourd'hui. Si bien que dans le 19e siècle, on leur a donné un nom, le pays ermite. Ils vivaient complètement seuls, autonomes, coupés du monde. Et en fait, cette culture a perduré dans la tête des Sud-Coréens aujourd'hui. Il y a une certaine peur, une certaine crainte de l'étranger, donc liée à cette problématique historique. Ce qui fait que c'est un pays pas très accueillant en soi. Vous allez voir un Coréen dans la rue, vous leur posez une question, il est pétrifié. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de vous répondre. Il faut le voir pour le croire. Les Coréens sont comme ça. Bah, pour le prouver, on a mis un petit spot vidéo, c'était une pub qui a été faite par le gouvernement sud-coréen. Cette pub qui met en scène donc ce blocage lié à l'étranger, face à l'étranger, on voit des Coréens qui se cachent dès qu'un étranger s'approche d'eux pour leur poser une question quelconque. C'est très ironisé, c'est vraiment pour marquer le coup et forcer la chose. D'une part, il met en exergue les problématiques que vivaient les Coréens, à savoir une peur de l'étranger, mais un truc énorme derrière, c'est qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont avoué ou admis leurs problèmes pour essayer d'y remédier. Et le message qu'il y a là-dedans, c'est que le Coréen qui voit ça ne peut qu'en rire. On ne peut pas le voir ça autrement. Alors nous, ça nous fait aussi rire. Mais c'est que le message passe de façon plus forte et plus pérenne dans le temps. Ça, c'est quand même une grosse marque de la Corée du Sud sur laquelle on devrait, je dirais, surfer. C'est pour vous montrer que c'était possible. Les changements sont possibles. Et aujourd'hui, la Corée du Sud voilà, fait des publicités en permanence sur l'accueil qu'il peut y avoir au sein de la Corée du Sud. Donc il n'y a pas que celle-ci. Hein. Il y a un groupe de pop-rock qui dit bonjour en plusieurs langues, en chinois, anglais, japonais, etc., qui vous accueille aussi. Ils développent des spots publicitaires sur le tourisme culinaire, parce qu'ils ont quand même une gastronomie qui est assez variée en Corée du Sud, et puis du tourisme culturel. Ils surfent sur toutes les thématiques du tourisme, ce qui fait qu'ils ont un vrai potentiel et une véritable stratégie.
Oui, effectivement. Alors, j'essaie de réfléchir à la chose la plus intéressante à dire en deux minutes. Bon, en fait, non, je vais tout dire, mais très rapidement. La première, c'est que même en France, à échelle locale, ça a été fait, ce système. Et un historien nous raconte l'histoire des sports d'hiver en France, et en une phrase, nous explique que si au départ les sports d'hiver étaient extrêmement mal perçus par les populations, n'arrivaient pas à se développer à cause des résistances des montagnards, il a été fait par plusieurs associations nationales tout un travail d'éducation, de sensibilisation de la population au bienfait du ski déjà, pour leur montrer que développer le ski c'était pas que servir les touristes, c'était aussi un bien-être à la fois hygiénique et bon pour leur développement, d'un point de vue économique d'autre part. Et tout ça a contribué à changer les mentalités des populations en une période d'à peu près 15 ans, selon l'historien qui raconte ça. Donc le temps de passage, à peu près quand même d'une génération. Mais la morale de tout ça, c'est qu'il a été possible de développer les sports d'hiver qu'en ayant au préalable convaincu les populations que c'était une bonne chose pour eux. Pour finir, j'aimerais répondre à une objection qu'avait formulée M. Duperras quand on était allé le rencontrer il y a quelques mois et qui m'avait un peu trotté dans la tête et finalement j'ai enfin trouvé une réponse. Et il nous avait dit « Oui, mais vos histoires de campagne, ça a déjà été fait, ça n'a pas marché. En France, on a vu la campagne « Dites bonjour » et la campagne « Ne soyez pas étrangers aux étrangers » et ça n'a pas marché. Bon. » La réponse que j'aimerais apporter, après tout ce temps, c'est que c'est tout à fait normal que ça n'ait pas marché, parce que c'est des campagnes qui, au lieu de soigner la nature profonde des blocages, n'ont cherché à soigner que le symptôme le plus évident, c'est-à-dire dire aux Français de dire bonjour, régler, je dirais, la conséquence la plus superficielle de ces blocages qui est que les Français sont désagréables avec les étrangers, ça n'a en fait effectivement aucune chance de réussir. Au contraire, ce qu'on aimerait vous faire voir, qu'on aura peut-être l'occasion de vous dire tout à l'heure, c'est que pour communiquer, il faut savoir analyser ce qui ne va pas. Et ces cartes d'images, ça signifie quoi? Ça signifie savoir faire rêver. Bah oui, Top Chef, ça a fait rêver des millions de gens, de spectateurs, en leur montrant les métiers de la cuisine sous un autre angle. Et ça a contribué à développer de manière incroyable la demande en école de cuisine et à changer même la nature du monde de la cuisine. Faire rêver, motiver, donc l'exemple de l'écologie. Et enfin, l'exemple de la sécurité routière, qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, n'a qu'un seul message, n'a qu'une seule conclusion, c'est que ce n'est pas la répression qui change les mentalités. Et croire que la sécurité routière a été bâtie à force de répression, c'est une erreur. La répression n'est arrivée que très tard, et la sécurité routière a été avant tout un changement de mentalité, un changement d'espace de mots, comme le dit un historien de la sécurité routière, oui, ça existe, un changement de symbolique. Et c'est seulement une fois que les populations étaient prêtes, étaient préparées, qu'il a été possible de mettre en place des radars, etc. Mais c'était déjà trop tard. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, je prends l'exemple de l'écologie. Et moi, personnellement, quand je mets quelque chose en métal ou une bouteille dans le sac fait pour les cartons, les gens me disent « Dis donc, tu tries pas tes déchets ?» J'ai tendance à dire « Bah oui, qu'est-ce que ça peut te faire et pourquoi toi, tu tries les tiens ?» Il me dit « Bah parce que c'est bien, parce que etc. etc. » Alors, est-ce qu'il y a une amende? Est-ce qu'un policier peut vous attraper pour vous mettre une grosse amende si vous ne triez pas vos déchets? La réponse, c'est non. Et pourtant, tout le monde le fait. Parce que ce qui fait changer les mentalités, ce n'est pas la répression. Ce qui fait changer la mentalité, c'est la sensibilisation. Et pour le tourisme, c'est la seule solution d'après nous. Merci.